Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International sur RFI, notre dernière émission de la semaine avec nos habitués qui sont là, Rémi Ngono, Xavier Barré, Alejandro Valente et aussi Franck Simon. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour
Annie.
Bonjour.
Bonjour les copains.
Alors, dans les débats du jour, Madrid et Munich, deux villes européennes, cadre des deux grandes confrontations du week-end, un derby espagnol et un classiqueur allemand. Les merengues recevront les colchoneros à Santiago Bernabéu. Ou pour un match décisif pour le Real dans la course au titre et décisif pour les deux clubs qui auront une folle série de rencontres ces prochains jours, notamment en Ligue des Champions. Les Bavarois, eux, reçoivent les Jaunes et Noirs qui doivent conforter leur avancée au classement. Et pour le Bayern comme pour Dortmund, eh bien, les deux protagonistes espagnols, une fin de championnat éprouvante en parallèle, donc de quart de finale de Ligue des Champions. Antonio Conte est-il le meilleur entraîneur du moment ? Le quadragénaire italien impressionne pour sa première saison en Premier League. Les Blues imposent leur rythme. Ils ont à nouveau battu l'équipe de Guardiola après avoir déjà battu celle de Mourinho. Guardiola admire Conte qui voudrait faire aussi bien que Mourinho à Chelsea. Un entraîneur en tout cas qui impose son 3-4-3 avec le sourire. J-10 pour le tournoi international des centres de formation de football à Cotonou. Le stade Mathieu Kérékou de la capitale béninoise s'apprête à accueillir 12 équipes de jeunes de moins de 17 ans. Un tournoi qui attire les talents et les chasseurs de talents. Et vous nous en direz plus, Mouniru Daouda, bonjour.
Oui, bonjour Annie. Merci pour l'invitation.
Vous êtes le délégué général de cette manifestation et vous allez nous raconter cela. Puis si vous avez une opinion sur tout ce qui se passe dans le monde du football, eh bien, vous aurez aussi le droit de l'exprimer. Et puis bonjour aussi à Marin Bobo, notre stagiaire qui nous a aidé toute la semaine et aujourd'hui il donnera son carton. Radio Foot, les débats sont ouverts. Merengue et Colchoneros sont rendez-vous samedi après-midi au stade Santiago Bernabéu pour un derby qui promet et qui promet beaucoup. Deux équipes qui ne veulent rien céder de toute cette saison. Le Real Madrid veut cette année gagner le championnat, mais il garde évidemment la tête devant le Barça de 2 petits points. Et un match en retard, alors que l'Atlético, lui, veut conforter sa place de troisième pour rester en Ligue des Champions l'année prochaine. Alors les quarts de finale qui se joueront en Ligue des Champions mardi et mercredi sont dans toutes les têtes. Mais pour l'instant, les hommes de Zidane se concentrent sur ce match. Ils avaient facilement gagné à Vicente Calderón au match aller 3-0. Zizou, cependant, ne veut plus y penser.
C'est juste le défi, c'est juste ce match qui nous arrive et qu'on a envie de défendre en fait. Il y a 3 points qui sont en jeu. J'ai pas envie de me souvenir du match aller, parce que le match aller, ça a été un match aller, voilà, on a gagné, mais c'est pas ce qui va se passer demain. Voilà, on a tous hâte d'y être, par contre, ça c'est sûr.
Il faut tenir, sans doute les Colchoneros, Xavier, ont peut-être envie de se souvenir du match aller et ça peut leur donner plus d'allant.
Oui, d'autant plus qu'il y a un an, à peu près, ils avaient infligé à Zidane sa première défaite en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Et c'est longtemps resté la seule d'ailleurs, ils étaient allés gagner au Santiago Bernabéu. Donc il y a effectivement une vraie rivalité, une vraie incertitude. Les deux équipes sont d'ailleurs dans des situations comparables. Elles viennent de jouer en championnat en semaine et elles ont le match de Ligue des Champions à suivre. Je me demande quand même si Zidane n'a pas mieux géré cette période-là parce qu'il a un effectif plus large et il a pu mettre en gros les remplaçants pour le match contre les Gades, alors que l'effectif de Diego Simeone à l'Atlético est quand même plus réduit et qu'il est obligé quand même de faire jouer un certain nombre de titulaires habituels pour un match de championnat contre la Real Sociedad, qui était important, mais effectivement, dans la perspective du derby, peut-être un peu secondaire.
Alejandro, certes, le Real a peut-être un avantage sur cela de son effectif, mais ce qu'on peut voir aussi de l'Atlético, c'est qu'ils ont stabilisé, entre guillemets, leurs résultats ces derniers temps.
Oui, ils ont eu une saison compliquée parce qu'il y avait pas mal de blessures qui touchaient des joueurs importants. Je pense aux gardiens, je pense à Godin, en défense, etc. Donc là, il y a Gamero qui est quand même incertain. Donc ils ont, comme le disait Xavier, un effectif beaucoup plus réduit, donc moins de marge de manœuvre. Là, ils reviennent bien. Ils viennent d'enfiler 5 victoires d'affilée, comme le Real d'ailleurs. Donc ils arrivent tous les deux en bonne position. L'Atlético a l'obligation de gagner pour conforter sa troisième place, voire éventuellement essayer de, d'aller chercher le Real et le Barcelone qui sont quand même loin devant. Et le Real a besoin surtout de conforter cette première place car la moindre contre-performance pourrait permettre à Barcelone de revenir alors que le Classico sera là dans deux semaines. Donc c'est quand même
en fin de mois.
C'est quand même bientôt.
Mmh. Rémi, y a-t-il une chance de voir un faux pas du Real à Santiago Bernabéu ou devant leur public?
Je ne pense pas parce que je ne pense pas.
J'ai tendu la bonne perche.
Attendez, Xavier est en train de nous rappeler les affaires d'il y a un an lorsque Zizou était presque en train de vouloir étudier encore le système qu'il devait mettre. Mais on a quand même constaté qu'il a remporté la Ligue des Champions devant cet Atlético. On a quand même constaté qu'il est parti gagner à Vicente Calderón et surtout avec un effectif amoindri. Il faut quand même se dire que ce jour-là, il n'y avait pas Ramos à la défense. Ce jour-là, il n'y avait pas Casemiro. Il faut quand même se dire que même Benzema n'était pas sur le terrain. Il n'est entré qu'à la 79e minute. Pour dire que Zizou avait quand même bien contrôlé le match, bien le contraire, c'est Diego Simeone aujourd'hui qui se rend compte que Zidane a beaucoup de possibilités au niveau de son effectif. Vous pouvez constater d'ailleurs, lors du dernier match, c'est pratiquement 7 nouveaux qui sont entrés et qui ont joué d'une autre façon. Et là maintenant, c'est Diego Simeone qui se pose la question. Est-ce que Isco sera titulaire? Est-ce que Toni Kroos, qui sera titulaire? Est-ce que ce sera la BBC? Pour dire aujourd'hui que le Real est beaucoup plus frais, a un beau effectif et un bel effectif, et surtout le Real
tout
est
le monde
capable
est là
de marquer à tout moment. La preuve, c'est que le Real a quand même enchaîné 51 matchs successifs en marquant des buts.
Mmh. Franck, est-ce que cette dynamique du Real peut continuer? Parce qu'on sait que surtout c'est important non seulement dans un derby toujours, mais aussi pour gagner le titre qui est la mission numéro 1 de Zidane cette année.
La victoire appelle la victoire. Ils sont dans cette dynamique, Xavier l'a bien expliqué, Alexandre a mis l'accent aussi dessus.
Mais l'Atlético, c'est 5 victoires aussi.
On n'est pas en face de la même équipe, c'est pas les Colchoneros de la saison dernière. Il y a beaucoup moins de, ils sont beaucoup plus fragiles, ils encaissent beaucoup plus de buts, malgré un gardien qui pour moi fait partie des tout meilleurs gardiens d'Europe, hein. C'est le meilleur, je pense, de la Liga et certainement l'un des meilleurs du continent. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas face au Real. J'ai eu peur, là, quand Rémi a commencé à égrener les souvenirs des derniers mois. Mais en fait, c'était pour vraiment bien expliquer qu'aujourd'hui, le contexte est quand même plus que favorable à la Maison Blanche. Ça va être très compliqué pour l'Atlético Madrid, même si je pense qu'ils ont envie de piquer le Real. Pourquoi? Ben pour favoriser les desseins du Barça, puis éventuellement de se rapprocher de ces places de Ligue des Champions.
En tout cas, Alejandro, en toile de fond, hein, évidemment, cette semaine dans la presse, il y a eu des petites piques, des petites provocations. Griezmann a dit on est les favoris.
Oui, forcément, l'Atlético, de toute façon, est obligé à aller chercher cette victoire. Et même un match nul, ce serait pas une très bonne affaire. Donc, ils sont obligés de se provoquer. Mais ça fait partie un peu du folklore espagnol. On est déjà au Classico aussi.
Et on parle de transfert aussi, voilà. De certains traîtres qui partiraient du côté de Barcelone.
Ça nous surprend parce qu'on est, ça nous surprend nous ici, français, parce qu'on n'a pas forcément cette culture des petites piques. On a eu par le passé l'OM avec Tapie. Mm-hmm. On a eu l'OL avec Olas qui est friand de ce genre de déclaration. Mais en fait, on n'est pas trop habitué à ça. Et je trouve que c'est bien aussi parce que c'est, quelque part, ça alimente pendant des jours et des jours bien les débats. Et à l'arrivée, de toute façon, on sait très bien ce qui va se passer.
Mais c'est quand même bizarre que Griezmann, qui perd chaque fois, dise aujourd'hui qu'il est subitement favori.
Comment ça, il perd chaque fois?
Quoi devant les joueurs du Real, que ce soit. Oui, mais qu'il dise aujourd'hui qu'il est favori, c'est le monde à l'envers.
Il ne va pas vous dire qu'il a envie de perdre contre le Real.
Mais attendez, même lors du dernier match, il y avait un écart de combien? Parce que j'apprends que...
3 buts, hein?
Non. Voilà, il y avait un écart.
C'était 3-0, Mathieu.
Et sur le nombre de points, il y avait quel écart? Il y avait 6 points d'écart. Aujourd'hui, on est quand même à 10 points d'écart. C'est-à-dire que c'est le Real qui est favori, même sur le papier. Et quand on voit l'évolution...
Sauf que le Real, des fois, Rémi, on s'interroge sur son style de jeu.
Ah oui, on s'interroge sur son style de jeu. Et surtout, le Real est
bien... défense, surtout, hein, qui est quand même friable. Hein. On a vu les 2 buts qu'ils ont encaissés.
Je vais te dire par rapport à Alessandro. Quand tu me parles de la défense, Tu peux me parler peut-être aujourd'hui, moi aussi, d'ailleurs Franck-Simon l'a souligné, la saison dernière, Atlético, c'est 24 matchs sans encaisser un but en Liga sur 38. C'est-à-dire que le total de la saison, ça faisait 30 matchs, clean sheet. Mais quand on regarde aujourd'hui, cet Atlético prend 3 contre Villarreal, prend 3 contre Real, prend 3... Mais donc aujourd'hui, si tu veux me parler de la défense du Real, qui, mon Dieu, la défense du Real peut flancher. Mais le problème, c'est que le Real s'est marqué. C'est exactement la même chose qu'on voit parfois avec
et
la
en
défense
plus, du Barça. Et en plus, l'Atlético n'a pas Gamero, Xavier.
Oui, il n'y a pas Gamero. Bon, c'est sûr que c'est un handicap parce que sa complicité avec Griezmann est intéressante.
Il y a Ferreira Carrasco qui revient bien.
Qui revient bien. Mais je crois surtout ce qui est important par rapport au match aller. Parce que, bien sûr, Rémy Ngono rappelait le score du match aller. Pour se convaincre... mais Annie, c'est votre rôle. Mais pour se convaincre de la victoire prochaine du Real. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que sur les derniers déplacements à Bernabeu, c'est l'Atlético qui gagne. Parce que l'Atlético, en fait, est beaucoup plus à l'aise quand il doit subir. Mm-hmm. Or, je crois que le défaut qu'ils ont eu au match aller au Vicente Calderón, c'était d'ailleurs le dernier Real Barça au Vicente Calderón, ils ont voulu jouer ils ont voulu montrer que c'était eux les boss. Et ils ont été pris à leur propre piège, parce qu'effectivement, le Real est très fort. On va pas dire que c'est une mauvaise équipe, il est pas leader par hasard. Mais là, en fait, je pense que l'Atlético sera peut-être plus à l'aise, parce que le
ils
Real,
devant son public,
voilà, va être obligé de jouer. L'Atlético va pouvoir se recroqueviller en défense et procéder en contre, et c'est dans ce registre-là qu'il est le plus efficace.
En tout cas, ce sont deux équipes qui sont toutes les deux qualifiées encore en quart de finale. Elles ont des matchs durant la semaine à l'extérieur. L'une se déplacera à Munich, c'est évidemment le Real qui jouera contre le Bayern, et puis l'autre, l'Atlético, ira à Leicester. Les joueurs y pensent, notamment Antoine Griezmann.
Concernant la Ligue des Champions, je pense que nous avons le match le plus difficile. Il sera âprement disputé, un match qui forcera les deux équipes à l'effort. J'espère que l'on sera physiquement en forme. Nous voulons nous qualifier directement en Ligue des Champions. Il faut donc battre le Real pour consolider cette troisième place en championnat. C'est l'objectif du club et des joueurs. Nous devons gagner ce match aussi pour les supporters et pour nous-mêmes. Cela nous apporterait beaucoup, nous engrangerions de la confiance et cela nous aiderait jusqu'à la fin de la saison.
Le Real va à Munich, mais d'abord c'est l'Atlético qui reçoit. Est-ce que ça peut les gêner finalement cette échéance parce que là tout se précipite un peu, ou est-ce qu'ils sont déjà prêts pour ça, Alejandro?
Je pense que des équipes comme le Real Madrid ont l'habitude de gérer ce genre de situation. Après, c'est vrai que ce mois d'avril est toujours un mois très délicat pour chaque équipe qui dispute à la fois les titres et la Ligue des Champions.
C'est tellement embouteillé de matchs.
Mais ils le savent, en fait.
Et l'équipe nationale, parce que t'as aussi des joueurs qui étaient en équipe nationale.
Oui, ça s'est passé déjà. Mais disons que c'est quand même un mois très compliqué, où le moindre faux pas peut avoir des conséquences très importantes. Donc il faudra quand même pouvoir bien l'aborder pour les deux équipes, et c'est un des enjeux de ce match.
Ouais,
ils ont une certaine habitude de ces rendez-vous, on l'a bien vu que ces
équipes-là, elles y sont toujours.
Voilà, elles flottaient surtout ces dernières saisons, l'Atlético comme le Real, puisqu'ils ont joué deux des trois dernières finales de Ligue des Champions l'un contre l'autre. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'au mois de janvier, c'est là où ça se prépare justement, ces rendez-vous du printemps. C'est là où on voit que parfois elles ont un petit coup de mou parce que les entraîneurs refont de la préparation physique, ils refont un peu de foncier, et ils exploitent les moindres créneaux quand il y a une semaine pleine d'entraînement pour justement mettre certaines choses au point. Et c'est compliqué effectivement parce qu'à ce moment-là, le calendrier est très chargé en Espagne, en tout cas avec les matchs aller-retour de la Coupe. Et là, quand arrive le printemps, en fait, ils sont prêts. Ils sont prêts pour ces échéances parce que ces grands clubs, ils se préparent pour ce moment-là. Maintenant, je pense que quand même, les rendez-vous à venir seront plus compliqués. Les rendez-vous européens à venir seront plus compliqués pour le Real face au Bayern que pour l'Atlético face à Leicester, même si Leicester revient aussi.
Non,
Rémi,
je ne pense pas. C'est vrai que...
Il est une boule de cristal, Rémi, ça y est.
C'est vrai que le Real a un adversaire coriace, mais sur le foncier, c'est le Real qui a bien travaillé. La saison dernière, à pareille, c'est-à-dire qu'au mois d'avril, Cristiano a été blessé, Benzema a été blessé, Bale était blessé, et d'ailleurs, il est resté blessé pendant 88 jours, sans pour autant oublier que c'était un effectif qui était vraiment... Tout le monde était à l'infirmerie. Cette fois-ci, il y a eu un travail foncier, parce que d'ailleurs, il faut savoir que en juillet, Zidane a fait recruter Pinto, qui avait travaillé avec Didier Deschamps, c'est-à-dire pour le travail foncier. Ils ont fait ce travail foncier qui fait qu'aujourd'hui, avec aussi la façon qu'ils préservent des joueurs comme Cristiano Ronaldo, qui est beaucoup plus frais, avec la façon qu'ils ont eu à travailler, ils sont mieux armés, mieux outillés. Et ils ont un banc capable de répondre à toutes sortes d'envergures. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, oui, moi j'ai vu par exemple le Bayern a voulu faire tourner contre le Fenerbahçe, on a vu ce que ça a donné. Mais quand le Real lui fait tourner, on voit que le Real continue à gagner.
Et ben justement, vous parlez du Bayern, on y va à Munich parce que il y aura la confrontation du championnat d'Allemagne. Ça sera ce classico, ce classiqueur, comme on dit en Allemagne, avec cette rencontre entre le Bayern et Dortmund. Alors, ce sont évidemment deux équipes, deux grands clubs européens, mais quand même, le Borussia cette année n'est pas deuxième. Il ne dispute même pas au Bayern sa suprématie, puisque le Borussia n'est que quatrième et essaye de décrocher lui aussi une place en Ligue des Champions pour l'année prochaine. En tout cas, le Bayern sort d'une défaite, on en a parlé en début de semaine. L'avantage de Carlo Ancelotti est là, Rémi, ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'absents et en tout cas les grandes vedettes sont là, ce qui n'est pas le cas de Thomas Tuchel qui lui peut déplorer beaucoup d'absences, Reus, Schürrle, Götze, Durm aussi en défense et puis d'autres sont incertains. En tout cas, ce qu'on aura sur la pelouse, et ça sera très intéressant, c'est ce face-à-face entre les deux meilleurs buteurs de la Bundesliga actuellement, Robert Lewandowski du côté du Bayern et Pierre-Emerick Aubameyang du côté de Dortmund. Cela amuse un peu le défenseur du Bayern, David Alaba.
Lewandowski et Aubameyang, ce sont deux attaquants vraiment très dangereux. Ils inscrivent certes beaucoup de buts, mais ils sont incomparables. L'un est très rapide et aime capitaliser sur sa vitesse. Le second possède des qualités différentes. Contre qui je préfère défendre, je n'en ai aucune idée.
Vous qui êtes gardien, vous aimeriez être contre qui
Aucun des deux. De toute façon, j'aurai aucune chance. Hein.
On va avoir un festival de buts dans ce match, un peu à la manière allemande.
C'est à souhaiter. Puis de toute façon, c'est aussi un championnat qui tient toujours ses promesses de ce point de vue-là. Mais bon, le Bayern a besoin aussi de se remettre dans le bon sens, hein, après ce qui s'est passé il y a quelques jours.
Leur titre voilà. N'est peut-être pas en danger, mais
faut relancer la bécane, la machine. Puis après Dortmund, puis il y a la question de la suprématie entre ces deux hommes qui, je pense, est importante parce qu'ils se tiennent comme ça.
24 et 25 buts.
Voilà, 24 et 25 buts. Donc il y a besoin pour l'un ou l'autre de montrer qui est le taulier, qui est le boss.
Le boss, ne nous posons pas des questions. Le boss, c'est Aubameyang. Je ne comprends pas pourquoi.
Vous ne me laissez pas terminer, Rémi.
Laissez-le terminer, Rémi.
L'année dernière, Aubameyang était devant et cette année, je me rends compte d'une seule chose, Annie. Soyons sérieux.
Pourquoi vous ne le laissez pas terminer?
Bon, allez, termine alors.
Bah oui.
Bon, en toute générosité, je vais faire une passe décisive à mon ami Rémi Gonon.
Mais Franck.
Pourquoi est-ce que je le dis? Je constate que Lewandowski joue quand même dans une équipe où il y a 5 champions du monde. J'ai dit bien 5 champions du monde. Ce qui signifie qu'il est très bien entouré. Et c'est des gens qui jouent depuis très longtemps. Or, qui joue à côté d'Aubameyang, c'est exactement des gens que vous avez cités, le petit Dembélé, qui n'est pas titulaire en équipe de France. Vous pouvez avoir des gens totalement inconnus. Mais ce monsieur, quand il plante des buts, on se dit, mais c'est pas possible. Et j'ai été d'ailleurs stupéfait, scandalisé. Du fait qu'on sous-évalue les joueurs africains. Je vous prends par exemple le 8 mars. Le 8 mars, Aubameyang fait un triplé en Ligue des Champions contre Benfica. Et Neymar, parce qu'il marque contre le Paris Saint-Germain, on dit c'est pas possible de donner lui le ballon d'or. Pendant ce temps, Aubameyang, lui, il a 21 buts en championnat. Et Neymar est à 8 buts. Neymar sera au pied du podium.
Vous êtes sorti du sujet classique.
Aujourd'hui, non, parce que Lewandowski également était bien placé par rapport à Aubameyang. C'est toujours comme ça. Or,
bah oui, il a 24 buts et l'autre a 25.
Attendez, donc, or actuellement, non, c'est Aubameyang qui est devant.
Il est devant, mais il
est toujours devant. Depuis l'année dernière.
Il sort aussi d'une Coupe d'Afrique des Nations. Ça s'est pas forcément bien passé ni pour lui ni pour l'équipe nationale du Gabon. On évoquait là effectivement le match aller contre Benfica où il avait les pieds carrés, il avait raté le péno, il avait raté 3 occasions importantes. Et c'est vrai que ce match retour, il était étincelant, mais il avait des raisons de ça. Donc bon, moi je pense que ça s'équilibre entre les deux hommes.
On y revient en début de deuxième partie de ce Café des Sports de Radio Foot International et puis on parlera aussi d'Antonio Conte. À tout de suite.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International sur RFI avec Rémi Ngono, Xavier Barré, Franck Simon, avec Alejandro Valente et notre invité Minourou Daouda. Alors, nous allons juste conclure sur ce match de Bundesliga. Alejandro Valente, Bayern Dortmund.
Alors, moi, j'ai un petit peu tiqué parce que vous avez dit que Dortmund avait beaucoup d'absents et le Bayern était au complet quand même.
Presque
il y a des
complet.
Joueurs qui sont importants et qui sont très incertains. Je pense à Manuel Neuer, je pense à Thomas Müller, même Douglas Costa. Donc, le Bayern n'arrive pas au mieux à ses débuts du mois d'avril, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ils s'en sont rendus compte la semaine dernière.
Voilà, et c'est vrai qu'ils ont, heureusement pour eux, une grande... marge en tête du championnat, donc je pense qu'ils vont quand même privilégier la préparation du match contre le Real et qu'ils vont pas forcément jouer à 100% ce match contre Dortmund qui est quand même à 15 points de 2 au classement.
Oui, mais ce qui est en jeu, c'est pas la place au classement finalement, c'est
une question de prestige, mais je pense un peu comme à Alejandro Valente, ce classiquaire risque de nous décevoir parce que l'objectif pour les deux équipes, c'est la Ligue des Champions et l'enjeu en championnat, effectivement, il est pas évident compte tenu de la marge dont dispose le Bayern.
Non, moi, je pense que on ne peut pas parler comme ça en Allemagne. C'est comme si vous dites que déjà le Bayern a perdu au match aller, ce qui signifie que le Bayern ne peut pas accepter ni Carlo Ancelotti ni les supporters qui aient une certaine suprématie. C'est comme si tu dis, par exemple, un match entre le PSG et l'OM, il y aura toujours cette rivalité, comme un match entre le Real et Atlético. Ça, c'est
si les Bayern tapent le Real, ils s'oublieront vite.
Voilà. Sauf que là, moi je dis, il m'a cité quelques noms là, des gens un peu incertains. Mais Annie a fait un chapelet d'absents qui est bien évidemment.
Mais Neuer, on a vu l'importance de Neuer l'autre jour quand il était pas
quand
là.
Quand on se rend compte que finalement Dortmund repose sur qui? Sur Aubameyang, sur les buteurs, il n'y a qu'Aubameyang. Bon, et malheureusement, il y a un proverbe africain qui dit que une seule bûche ne fait pas le feu.
Eh bien, on va arrêter là sur ces deux grands matchs du week-end et on va passer à l'Angleterre. L'Angleterre avec un Italien à la conquête de la Premier League. L'an dernier, c'était Claudio Ranieri qui avait remporté le titre de champion d'Angleterre. Cette année, eh bien, ça pourrait être Antonio Conte. Hier, les Blues ont fait un pas de plus vers ce titre tant convoité en remportant une victoire sur les Citizens. Alors, comme Chelsea avait perdu à domicile la journée précédente contre Crystal Palace, on en a aussi parlé en début de semaine, eh bien, l'équipe avait soif de se rattraper. Eden Hazard a d'ailleurs inscrit un doublé. Mais au-delà des équipes, ce qui était intéressant d'observer hier, c'était le style de deux équipes et surtout le style de deux entraîneurs. Antonio Conte, qui a donc débarqué l'été dernier dans le championnat anglais, comme l'Espagnol Pep Guardiola. Et les deux hommes, on va l'entendre, se vouent une admiration mutuelle.
Mon avis sur mon collègue Conte, il est peut-être le meilleur. Je trouve qu'il est superbe. Il a permis à l'Italie et à la Juve aussi de pratiquer un beau football, malgré une culture très défensive. C'est un excellent manager. J'apprends beaucoup en regardant jouer ses équipes. Ses équipes contrôlent beaucoup d'aspects.
Jouer contre Manchester City, ce n'est jamais vraiment facile. C'est une grande équipe, ils ont de très bons joueurs et un coach exceptionnel. Pour moi, Pep est le meilleur coach au monde. Quand vous affrontez cette équipe, c'est toujours un match très très compliqué à gagner.
Alors, échange de belles paroles. Il y a aussi Antonio Conte qui avoue vouloir égaler les résultats de José Mourinho qu'il avait remporté avec Chelsea. Est-ce qu'Antonio Conte est actuellement le meilleur entraîneur?
Pas pour moi. D'abord parce que, comme le disait Guardiola, sa stratégie est trop défensive. Et pour moi, être un grand entraîneur, c'est gagner, mais c'est aussi innover, apporter des choses intéressantes et riches au niveau du jeu, au niveau du spectacle. Et je pense qu'à ce niveau-là, Conte est loin du compte.
Xavier.
Non, je suis d'accord avec El Jefe, encore une fois, mais c'est vrai que Conte, il a...
Autant Conte qui gagne plusieurs titres avec la Juve, qui aussi fait un beau travail avec l'équipe d'Italie.
Ceux qui lui ont succédé à la tête de la Juventus sont aussi champions, donc c'est pas forcément une référence, puisque la Juve est largement devant tout le monde, ils sont le club le plus riche et celui qui a les internationaux italiens les plus importants. Mais le coup qui réussit en Angleterre, là, c'est vrai que c'est un bon coup de commando. Mais son équipe, elle ne crée rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé un attaquant depuis qu'il est arrivé, depuis après après la défaite 3-0 à Arsenal. Il a enlevé un attaquant, il a renforcé sa défense et il procède en contre. Moralité, il gagne effectivement les matchs contre Manchester City qui fait le jeu, mais contre Crystal Palace, ils sont pas capables de gagner parce qu'ils sont pas capables de faire le jeu. C'est une équipe uniquement de contre. Et si toutes les équipes jouaient comme le Chelsea de Conte, eh ben on s'embêterait vraiment parce qu'il ne produit rien au niveau du jeu, ou en tout cas très peu de choses. Il s'appuie sur la qualité d'Eden Hazard, qui, on le sait, est un joueur exceptionnel. Quand ça passe, c'est bien. Quand ça passe pas, eh bien, Chelsea ne gagne plus.
Rémi,
Je crois que Xavier Barré a un peu tort, parce que, en même temps, il faut se dire que tu as un peu tort, parce que c'est vrai que ton entraîneur préféré, c'est Wenger qui va remporter.
Ça faisait longtemps.
Qui a promis remporter la Ligue des Champions en 2035 quand il y aura émergence au Cameroun. Donc, nous attendons cela, mais pour l'instant, on constate quand même que Ranieri est arrivé avec ce style-là. Il a gagné. On constate quand même que José Mourinho est arrivé avec ce style-là. Il a gagné. On constate que voilà Conte qui arrive avec le même style. Il est en train de gagner.
Par hasard, qu'il y a des équipes qui ne jouaient pas l'Europe.
Ce n'est pas ça que vous allez dire. Parce que, de toutes les façons, Mourinho a gagné la Ligue des Champions avec ce système-là. Donc, à une certaine période, qu'est-ce que Conte a fait? Conte a commencé, comme tu le dis, avec le 4-3-3. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les lacunes défensives. La preuve, c'est que toi-même, tu as dit qu'il a pris 3 buts contre Arsenal. Alors, il a changé directement. En mettant le 3-4-3 où il a transformé celui qui n'était pas au Paris Saint-Germain comme étant un défenseur, qui est devenu un bon libéro. Et aujourd'hui, on se rend compte que...
C'est tellement bon qu'il lui met deux stoppers à côté pour être sûr qu'il prenne
le ballon. Il a enlevé Fabregas. Il a enlevé quand même Fabregas.
Mais
le fait...
Donc c'est le meilleur entraîneur?
Pour l'instant, c'est le meilleur. Pour l'instant, c'est le meilleur entraîneur en Angleterre. Le meilleur entraîneur du monde pour l'instant, c'est Zinedine Zidane. Ça se voit et ça s'explique. Donc aujourd'hui, moi je dis, Conte a aussi eu cette chance, à savoir que au moment où Eden Hazard est en train de redevenir le vrai Eden Hazard, il a quand même réussi déjà 128 dribbles. C'est-à-dire aucun attaquant n'a réussi la moitié. Donc à une certaine période, quand vous avez un Eden Hazard, eh bien comme le dit un proverbe africain, la liane arrive au sommet de l'arbre en s'appuyant sur son tronc.
Ouais.
Franck.
Allez, je vais mettre un petit peu de sérénité dans
c'est
tout
à
ça.
Vous. Est-ce non. que Antonio Conte est le meilleur? Parce qu'on sait que quand même dans ce championnat c'est d'Angleterre
pas le
actuellement,
c'est pas le meilleur.
Il y a Pep Guardiola, il y a José Mourinho.
Il est en tête du championnat, c'est sa première saison, il est là depuis
un
peu moins d'un an. Et voilà, il marque les esprits. Après, à chacun sa définition de ce que doit être ou de ce que peut être le meilleur entraîneur. Alejandro a donné sa définition, Xavier a donné sa définition, Rémi aussi, je pourrais vous en donner une autre. Moi, je considère que les titres, ça compte pour beaucoup, peut-être même plus que le beau jeu. Bah, c'est vrai que j'aime bien quelqu'un comme Simeone, et donc on peut pas vraiment dire que ses équipes soient des équipes super spectaculaires. Peu importe, il est devant, il est en tête. Deuxième attaque, deuxième défense. Même s'il perd des matchs contre des équipes dont on peut dire que c'est plus facile, Palace, la semaine dernière. Bon, il est devant, ça sera sans doute différent dans quelques mois. Il va prendre le titre, très certainement. Il est en demi-finale de la Cup, ne l'oublions pas. Il a du gros monde devant lui, puisque je crois qu'il joue Tottenham, le dauphin.
Battu, d'ailleurs,
voilà. Donc, il va prendre le titre en première ligue. Est-ce qu'il fera le doublé? On ne sait pas. C'est sans doute pas le meilleur entraîneur d'Angleterre, ni celui d'Europe, mais il fait partie quand même des tout meilleurs techniciens du monde. Donc on va pas non plus lui jeter un sac de gravier, quoi, pour ce qu'il fait. Le 3-4-3, ça a fonctionné, ça fonctionne. Il trouvera sans doute ses limites dans quelques mois à la prochaine saison.
Et ben voilà, deux contre deux. Donc on continuera à parler d'Antonio Conte et des autres.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah non, moi je peux vous dire simplement encore en parlant de la Première Ligue qu'il y a une mauvaise nouvelle.
Ah.
C'est celle qui concerne Sadio Mané. Sa saison est déjà terminée.
Ah.
Ça a été officiel depuis
après
ce matin.
Après qu'il ait fait mal à Everton la semaine dernière.
Exactement. Ah. Mais il s'est fait mal aussi face à Everton.
On s'est occupé de lui, que voulez-vous?
Exactement. C'était spectaculaire. Abi Bey nous en avait parlé en début de semaine. Il avait vu que ça tiendrait pas. Et donc Jürgen Klopp a confirmé ce matin.
C'est une mauvaise nouvelle pour son club
qu'il
et son
risquait,
pays.
Voilà, exactement, d'être opéré. C'est fini avec Liverpool, mais surtout avec les Lions de la Teranga. Et il y a des matchs importants.
Ça, c'est pas bon.
Très mauvaise nouvelle pour Liverpool, parce que sans lui, Liverpool a joué 4 matchs de Premier League cette saison et ils n'ont pas gagné un seul, statistique.
Oui, quand il était à la CAN, il aura aussi beaucoup
manqué. Il fait marquer,
manqué.
Et il marque. Qu'est-ce que
et en revanche, quand il est là, 27 matchs de Premier League, 17 victoires, 7 nuls. Et c'est un joueur qui est vraiment indispensable à la bonne réussite des Reds.
C'est un des meilleurs Africains d'Europe cette saison, enfin encore, parce que c'est le cas avant, et il est tout proche d'un Aubameyang dont parlait Rémi.
Et très important pour les Lions de la Teranga, donc un handicap, mais en tout cas il aura le temps de se reposer et de remettre son genou en état. Le 17 avril prochain sera donné au stade Mathieu Kérékou de Cotonou le coup d'envoi du tournoi international des centres de formation de football. Un tournoi qui va réunir 12 équipes. C'est en tout cas ce que vous nous promettez. Alors, Mouniru Daouda, vous êtes le délégué général de toute cette organisation. Ce sont des jeunes de moins de 17 ans qui vont se retrouver là. Ce n'est pas le premier tournoi en plus.
Non, on est à la 7e édition à Nice. Donc, c'est un tournoi qui dure et qui perdure. Donc c'est un tournoi qui est reconnu sur le continent, puisque la plupart des pays sont présents, donc les pays de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, et vous avez aussi le Cameroun qui fait le déplacement, qui avait fait déjà le déplacement l'année dernière. Cette année, ils feront encore le déplacement à Cotonou. Donc ça va durer toute une semaine, du 17 au 23 avril, donc à Cotonou, au Bénin.
Ouais, il y a plusieurs matchs par jour, c'est ça, dans le stade, on peut se rendre.
Tout à fait. Donc, il y a plusieurs matchs par jour, il y a 6 matchs par jour, et donc seront présents donc les recruteurs des différentes équipes de première de ligue française qui ont confirmé. Et il y aura bien sûr les recruteurs. Et vous savez, lorsqu'on fait ce genre d'événement, c'est surtout pour permettre aux enfants de se retrouver, les enfants du continent de se retrouver, mais en même temps de se faire plaisir, parce que c'est pour cela qu'on fait venir certaines vedettes du ballon rond pour venir en même temps leur partager l'expérience avec ces enfants-là, pour leur expliquer qu'il n'y a pas que le football dans la vie, parce que sur 1000, il y en a peut-être un qui arrivera à s'en sortir, mais il faut penser aussi que s'il n'y a pas que le foot, il faut penser aussi aux études, donc on essaye de donner ces enseignements à ses enfants.
Et quels seront les grands alors qui viennent un peu les parrainer, qui viennent les encadrer, qui viennent aussi leur montrer l'exemple?
Les grands parrains qui vont venir cette année sur les lieux sont Souleymane Diawara, donc les internationaux sénégalais, Souleymane Diawara, ainsi que Mamadou Niang, qui ont accepté gentiment de venir vraiment parrainer cet événement. Il y aura le grand Jafet Ndoram, donc connu et reconnu sur le continent africain. Et puis, il y aura bien sûr José Anigo, qui nous aide depuis 3 ans sur cet événement, puisque ça a permis à 3 enfants d'aller faire des essais quand même à l'Olympique de Marseille, à l'époque où il était là-bas.
Mmh. Bon, il est encore dans la région, on va dire. Mais une chose sur ces gens qui viennent observer ces jeunes talents. Vous citez évidemment ceux de Ligue 1, voire d'autres championnats européens. Mais est-ce qu'il y en a aussi des clubs africains pour enrichir les championnats africains, en tout cas là où il y en a qui fonctionnent?
Oui, c'est vrai que cette année, exceptionnellement, on a la participation des clubs africains. On a l'Étoile du Sahel qui a envoyé donc un émissaire. Nous avons aussi donc l'AS Bamako qui a envoyé aussi un émissaire qui viennent, et on a les Gabonais qui ont envoyé aussi des émissaires pour venir vraiment voir, parce que le tournoi commence à avoir des échos au niveau du continent. Donc certaines personnes ont envie vraiment de voir ces enfants peut-être évoluer d'abord sur le continent avant d'aller peut-être en Europe par la suite.
Mmh. Franck, vous allez aller assister.
Absolument.
à ce tournoi.
Je serai présent, je vous raconterai tout ça.
Bah oui, mais qu'est-ce qui vous attire justement là-bas? Quel est l'intérêt?
Déjà, c'est pas des clubs. Ce sont des structures pour des jeunes. Ce sont pas des clubs structurés
parce
comme des clubs,
demande,
si vous voulez.
Justement, beaucoup. Il y a des manques en formation sur le continent africain. Est-ce que là, ces centres de formation sont finalement une vitrine?
Bah, c'est une vitrine, et puis c'est une vitrine de ce qui se fait dans la sous-région en Afrique de l'Ouest. C'est important. C'est dommage qu'il n'y ait pas les Burkinabés qui avaient gagné une édition précédente. Ce que dit pas Mouniru, c'est qu'en fait, c'est la 3e édition internationale. Il y en a eu précédemment qui était réservée uniquement aux structures de jeunes du Bénin. Mm-hmm. Aujourd'hui, les Béninois sont les plus nombreux, mais c'est normal, hein, c'est à Cotonou. Et après, vous avez tous les pays qu'il a cités qui sont représentés par une, voire deux structures de jeunes. Mais ça doit être le reflet de ce qui se fait dans ces pays-là. Il y a des volontés, il y a des fois des volontés qui sont des volontés d'individus. C'est pas forcément des fédérations qui sont derrière, mais des individus qui financent tout ça, qui essayent. Alors certains, on va dire, oui, ils le font pourquoi? Peut-être pour des raisons pécuniaires. Mais la plupart du temps, c'est aussi parce que il y a un besoin. Il y a pas de championnat de jeunes en Afrique la plupart du temps, où il y en a très 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 peu de structurés. Les structures qui sont invitées pour cette édition, qui ont postulé en tout cas. Moi, je ne sais pas si elles évoluent vraiment dans des championnats. C'est-à-dire qu'elles jouent entre elles, localement, et elles viennent aussi pour montrer qu'il y a des talents. C'est la possibilité peut-être des confrontations, de voir, de s'étalonner. C'est aussi des possibilités pour les sélectionneurs nationaux sur place de voir peut-être des joueurs pour être dans les équipes de catégorie d'âge. Dans tous les cas de figure, c'est une vraie vitrine, c'est une vraie possibilité, une plateforme pour le football des jeunes de se montrer. Et puis, vous savez, c'est pas des sergents recruteurs qui viennent, c'est pas des agents en l'occurrence, même si certains seront présents. Ce sont des clubs de championnat qui sont identifiés, qui sont connus de Mouniru. Il sait qui est qui, il sait qui est, il les connaît, il y a cette relation de confiance. Il y a ce besoin aussi pour les enfants, et bien peut-être de rencontrer aussi les structures professionnelles, voir comment ils vont être ressentis. Et puis derrière ça, il y a toujours, vous savez, derrière l'aspect pédagogique qui n'est jamais oublié dans cette.
L'aspect fête aussi, je
l'aspect suppose. Fête, et c'est et la dernière chose, et après je laisse Mouniru peut-être en parler, c'est lui le boss après tout. Vous savez qu'aujourd'hui il y a pas de compétition au Bénin. Il y a plus de championnat. Aujourd'hui, si Mouniru
il y a eu beaucoup de problèmes à la fédération.
Oui, et si Mouniru n'est pas là pour organiser depuis tant d'années ce tournoi pour les jeunes, il n'y a plus de championnat. On ne connaît quoi que l'équipe nationale, l'équipe qui prépare les éliminatoires du CHAN, voilà, et c'est tout. Heureusement qu'il y a cette structure, ce tournoi qui existe et qui donne finalement un vrai coup de fouet au football béninois qui en a besoin, et j'espère qu'il sera soutenu. Moi je lance un message parce que lui ne le fera pas, mais j'espère que les autorités béninoises vont prendre conscience qu'il faut soutenir cette initiative, l'aider, parce qu'on peut pas non plus tout débourser de sa poche pour faire vivre un tournoi aussi prestigieux soit-il, et ça c'est important.
Il y a 4 équipes béninoises de moins de 17 ans.
Oui, il y a 4 équipes depuis 3 ans, on a pris l'initiative de faire un tour préliminaire. Parce qu'au préalable, on invitait énormément d'équipes béninoises. Et l'idée de José Anigo, ça a été une fois de me dire, essayez de faire d'abord le brassage en interne et après remonter les meilleures équipes béninoises pour pouvoir participer donc au niveau international. Et c'est comme ça qu'on fait un tour préliminaire. On l'a fait au mois de février. 3 équipes béninoises se sont dégagées de ce tour préliminaire. Et à cela a été rajouté donc l'ancien vainqueur du tournoi, puisque l'année dernière...
Le sortant, c'est le sortant qui vient.
Tout à fait. Le sortant vient automatiquement. Donc le sortant l'année dernière était donc une équipe béninoise.
Alejandro.
Une question, Mouniru. Il y a quelques semaines, Hamad a été élu président de la CAF. Il a promis qu'il allait agir afin de favoriser la formation, l'émergence de nouveaux talents dans tous les pays d'Afrique. Est-ce que vous avez des éléments qui laisse penser que les choses commencent à évoluer à ce niveau-là?
Écoutez, ce n'est que du positif, et je pense que Rémi va peut-être faire un petit commentaire dessus après, parce que le fait d'avoir changé effectivement de président au niveau de la CAF, c'est je veux pas dire que c'est une bonne nouvelle pour certains, parce qu'on a besoin de renouveler quand même aujourd'hui. Et le fait de renouveler, quand j'ai entendu le discours du président Hamad, je me suis dit, voilà, il veut faire quelque chose pour le continent, et j'aurai l'occasion, parce qu'on m'a déjà prévu une rencontre avec lui, pour lui parler de ce genre de tournoi, des choses qu'on peut appuyer, qu'on peut même accompagner pour permettre, parce que tout à l'heure Franck disait, il n'y a pas de championnat au Bénin. On se pose la question, que font les jeunes au Bénin aujourd'hui? Mais rien.
Ouais, hier, on parlait de ceux aussi qui sont sous-payés. Alors, des fois, il y a des championnats, mais on ne paye pas les joueurs. Donc, c'est aussi un autre problème, effectivement. Rémi?
D'ailleurs, le Bénin étant ma troisième patrie. Et voilà, parce que.
On apprend des trucs.
Oui,
Rémi sera avec nous alors.
Ne vous en faites pas, parce que j'aime beaucoup.
Rémi, allez faire un petit tour à Cotonou.
J'aime beaucoup le peuple béninois, et surtout, ça est toujours avec une certaine douleur que j'apprends leur élimination. Mais quand je vois aujourd'hui on continue à faire des semences, pourvu que on puisse par la suite, et espérons que le nouveau maître des lieux étant déjà aussi là, Monsieur Talon, que lui-même il va mettre un peu de talon là et talonner un peu le football béninois, parce qu'aujourd'hui il faut quand même se dire que le football est une identité, c'est un porte-flambeau pour la culture, pour un pays comme le Bénin qui est en train de se vendre à l'étranger, qui vend sa démocratie, qui vend ses talents. Donc moi je me dis aujourd'hui que comme justement Franck-Simon le disait, si on ne peut pas commencer par la base, parce que malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec la CAF. La CAF, qu'est-ce que Issa Yatou a fait? Justement, comme c'était le gouvernement de la gérontocratie, on ne s'est basé que sur des vieilles choses, des vieilles méthodes. Mais quand je vois le nouveau qui vient, qui dit, bon, écoutez, on va mettre un coup de pouce, d'abord financièrement, parce qu'il va débloquer les fonds, et ensuite, il se dit qu'on va réorganiser les choses jusqu'à à réadapter même la CAN. Donc, je me dis, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger en Afrique, et que, certainement, le Bénin pourra aussi redécoller grâce à ce vent du renouveau.
Parce qu'il y a des CAN, de toute façon, pour les moins de 17 ans, pour les moins pour les catégories inférieures. Mmh. Le problème, c'est peut-être effectivement d'organiser, de détecter, et aussi de voir ces centres de formation.
Tout à fait.
En tout cas, bonne chance, Minoru Daouda, pour votre...
Merci beaucoup, Annie. Et puis, on vous donnera des nouvelles donc de l'événement.
Franck sera le président, c'est lui le porte-parole.
Ne vous inquiétez pas. Ouais, oui. On va suivre ça.
On n'est pas inquiet, mais surtout bonne chance, parce que si c'est une fête du football dans le grand stade de Cotonou, eh bien, ça sera aussi la fête pour tout le monde.
Carton jaune.
Un carton qui sort, un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Rien à dire.
Et on va commencer par le carton de Radio Foot International. Un carton vert à un certain André-Pierre Gignac.
Dans les clés, Gignac, l'apéro. Vamonos. Vamonos todos.
Et oui Rémi, hein, ça vous fait rire, il faudrait s'entraîner. Hein. Vous savez que Bruno Salomon, il s'entraîne pour faire ça sur les antennes de Radio France, ici, quand il commente les matchs du PSG. En tout cas, eh bien, André-Pierre Gignac est toujours le buteur des Tigres de Monterrey, hein, au Mexique. C'est lui qui a marqué le but en fait de la qualification de son équipe en finale de la Ligue des Champions version Amérique du Nord, version CONCACAF. Alors Alejandro Valente, c'est une finale 100% mexicaine, on va dire encore une fois, parce que depuis 2006, c'est eux qui gagnent le titre.
Absolument, c'est pas la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît ici. C'est vraiment une domination totale des clubs mexicains. Parfois même en demi-finale, il n'y a que des clubs mexicains, c'était pas le cas cette année.
Bon, en tout cas, le Tigre Gignac rugit toujours, mais dans le championnat mexicain, par contre, c'est un peu plus compliqué pour l'équipe qui a remporté le tournoi d'ouverture, comme on dit, le torneo de apertura, et il faut qu'il remonte encore au classement. Ils ont 6 matchs pour se retrouver dans le championnat des play-offs. Marin, Bobo, vous avez un carton à mettre à l'issue de cette semaine dans le bureau de Radio Foot International.
Donc pour moi, c'est un carton vert à Craig Shakespeare, le nouvel entraîneur de Leicester. Depuis son arrivée, les Foxes sont inarrêtables. À 53 ans, Shakespeare est un ancien milieu anglais qui entraîne le club de Leicester pour la première fois. Il fait déjà partie du staff depuis 2008. Donc il était depuis l'année dernière l'adjoint de Claudio Ranieri. Quand ce dernier fut limogé le 23 février, donc Shakespeare reprend la tête du club.
C'était un peu inattendu d'ailleurs.
Ouais, à la surprise de tout le monde. Donc depuis son arrivée, les Foxes sont sur une série de 5 matchs consécutifs en Première Ligue, de 5 victoires consécutives en Première Ligue, et d'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc avant son arrivée, Leicester était 17e de Première Ligue, et aujourd'hui 11e. Donc si les joueurs continuent sur cette lancée, ils sont assurés de rester dans l'élite la saison prochaine. De plus, jamais une équipe arrivant jusqu'en quart de finale de la Ligue des Champions n'a été relégué la saison suivante.
Bon, ben voilà, ça sera peut-être meilleur pour Leicester, peut-être pas très bon pour l'Atlético Madrid. Merci, Marin.
Ça sera l'exemple et nommer Molière à la tête de Marseille, par exemple.
Ça pourrait être pas mal, n'est-ce pas?
C'est pas mal.
Rémi, un carton.
Un carton vert adressé par Ferdinand Chetiga de ma page Facebook Rémi Ngon officiel à la Fédération Ghanéenne de football, qui a quand même choisi encore Kwasi Appia. Donc c'est une formidable chose qu'aujourd'hui certaines fédérations pensent encore à des entraîneurs locaux. Donc ça c'est très très bien. Comme le dit un proverbe africain, mieux vaut compter sur sa chèvre qui vous donne du lait que de miser sur l'âne d'autrui.
Donc Sagnol n'est pas passé.
Petit commentaire de Mouniru. Franck.
Il m'a volé mon carton vert.
Mince.
Mais c'est pas grave parce qu'effectivement je voulais également. Non, mais c'est pas, une, c'est pas une bêtise. J'ai de la ressource. J'avais pensé évidemment à autre chose qui me plaisait bien. Et c'est un carton vert à Tem Ben Arfa, un des autres punis du football français avec Monsieur Benzema. On l'a vu en action il y a quelques jours en Coupe de France contre Avranches. Il a fait un match vraiment très intéressant.
Contre Avranches.
C'était contre Avranches, mais c'était du grand. Non, mais il faut pas nuancer. Le talent était là, et peu importe l'adversaire. Donc voilà, je voulais dire voilà, bah, carton vert à Atem, qu'on espère revoir. Si c'est pas sous le maillot parisien, sous un autre maillot, s'éclater ailleurs très très vite.
Xavier Barret.
Moi, j'ai un coup de cœur pour un joueur qui évolue en Angleterre, en Premier League. En regardant les statistiques pour préparer l'émission 11 d'Europe de ce soir sur Canal Plus Afrique, je veux dire que Dele Alli, en est en 2017 à 9 buts et 4 passes décisives. Et puis surtout, quand il marque, Tottenham ne perd pas. Et dans la finale, dans ce tour final du championnat d'Angleterre, on a parlé de Chelsea, de Manchester City, de d'autres, mais on parle rarement de Tottenham. Or, ils produisent un très beau football. Et Bami Dele, dont c'est le nom de son papa, qui est nigérian, Dele Alli est quand même un superbe artiste et coup de carton vert pour ses performances depuis le début de l'année.
Oui, entraîné par un Argentin. Pochettino, cette équipe.
Maurizio.
Voilà, la passe à Alejandro pour son carton.
Un carton jaune à un autre Argentin, le nouveau président de la Fédération de football, qui était censé régler les problèmes de l'équipe nationale et virer les sélectionneurs Bausa hier. Il est allé le voir pour ça. À l'arrivée, il lui dit qu'on va respecter son contrat. Et quelques minutes après, il déclare à la radio qu'en fait, Bausa est un con, vraiment littéralement, qui ne comprend rien et qu'il a intérêt à dégager. Donc voilà,
c'est
quelqu'un
vous, hein.
qui n'est pas très
La question, c'est
est-ce
que les Argentins seront à la Coupe du Monde, Alejandro?
Bah oui, finalement.
On s'inquiète. Hein, pour l'instant, ils n'y sont pas. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous. Merci à Richard Rifono qui a passé quelques jours avec nous et qu'on retrouvera lundi. Et merci aussi à David Finzel. On se dit donc à la semaine prochaine. Carrefour de l'Europe.